L'anthropologue et le photographe, un dialogue avec Marc Auger. C'est une exposition proposée par le photographe Marc Latulière à la Friche de la Belle de Mai à Marseille jusqu'au 13 août. Marc Latulière est artiste, photographe et commissaire d'exposition. Depuis quelques années, ses pérégrinations autour du monde, puis son retour en France, l'ont amené à développer une série de portraits très particuliers. Un lieu, un objet et un masque identifient et figent le portraituré. Ce sont des éléments d'une critique de la muséification, de l'art, du paysage, mais aussi du pays. Marc Auger est ethnologue et anthropologue. Il a effectué de nombreuses missions en Afrique et en Amérique du Sud. Auteur de nombreux livres, il a la particularité d'avoir forgé des concepts propres à l'anthropologie contemporaine. Parmi ceux-ci, idéologie, surmodernité, non-lieu, société planétaire. Le concept de société planétaire traverse son dernier ouvrage « L'avenir des terriens, fin de la préhistoire de l'humanité comme société planétaire » qui a été publié cette année chez Albin Michel. L'humanité n'est pas en ruine, elle est en chantier, écrit Marc Auger. Dans notre monde globalisé, l'autre, l'étranger, n'est plus le même. Comment alors le comprendre et le représenter ? Et comment cela modifie-t-il notre identité propre ? Quel est notre rapport à l'altérité ? Au cœur de la pensée de Marc Auger, ces questions ont influencé le parcours de Marc Latulière. Orchestré par les interventions écrites et filmées de l'anthropologue, l'exposition développe ce lien sous la forme d'un face-à-face. Le 8 juillet dernier, Marc Auger était à la Friche de la Belle de Mai. Rencontre entre Colette Tron et Marc Auger. Alors je sais que c'est une question qu'on vous pose souvent, mais quelle est la fonction ou la responsabilité aujourd'hui de l'anthropologue et comment vous avez vécu cette relation avec une altérité de pratique qui est celle de la photographie ?
Alors il y a deux questions. En fait, je crois que si j'ai rencontré un photographe, ça n'est pas un hasard. Car de manière générale, je m'intéresse un peu au devenir du monde actuel. Et c'est vrai que nous avons parfois le sentiment que nous produisons des images, et pas seulement, nous en recevons évidemment énormément. Et il y a une prégnance de ces images qui est colossale et qui pose problème. D'autant que nous sommes dans un monde qui change. On est en train de passer de la colonisation à la globalisation. Et on peut se demander quel est le rôle de l'image dans tout cela. Et est-ce que nous nous intéressons aux autres, mais est-ce que nous nous intéressons aux autres ou à une image des autres ? Et c'est une question qui est essentiellement anthropologique, et cette altérité que nous reconnaissons aux cultures différentes, aux civilisations différentes, aux pays différents, nous pose problème parfois. Mais il est vrai que l'ethnologie est intéressée à la question de l'autre en général. Et la question de l'autre, elle se pose au moins de deux manières. On peut considérer qu'il y a des cultures différentes, mais on se rend compte aussi qu'à l'intérieur de chacune de ces cultures, on se pose le problème de la relation entre les uns et les autres. Et d'ailleurs souvent pour y répondre d'une manière assez dogmatique, puisque je crois que c'est seulement dans la pensée démocratique la plus évoluée que l'on peut porter une attention particulière à l'individu comme tel, et indépendamment des relations qui sont imposées par un système entre les uns et les autres. Ce qui fait que nous sommes dans ce domaine au cœur de la recherche anthropologique. Alors vous me demandiez ce que j'avais éprouvé en rencontrant Marc à la Tuilière, ou plus exactement sa pratique, eh bien, je crois qu'il a lu l'anthropologie et il s'est demandé justement s'il pouvait s'interroger sur cette question de l'altérité. Et je crois que c'est ce qui lui a donné de l'intérêt pour les quelques écrits que je pouvais avoir sur ce sujet. Pour moi, c'est évidemment une expérience très intéressante parce que les artistes en général et les photographes en particulier, parce que ça n'est sans doute pas un hasard si la photographie devient un art officiellement aujourd'hui, s'intéressent au devenir de la société d'une manière qui a à voir avec la recherche anthropologique. Alors Marc Latuilière, nous sommes rencontrés, on s'est vus, il m'a raconté en quoi il était intéressé par ce que je faisais, et j'ai été moi-même intéressé par ses photographies, parce que il a fait un peu de la photographie expérimentale, à la fois chez des gens lointains pour montrer qu'ils n'étaient pas si différents et que les traces de la globalisation, il les assumait. Et parce que aussi, il s'est demandé si nous n'avions pas une vision un peu stéréotypée de notre environnement le plus immédiat. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Je crois que c'est une rencontre intellectuelle. Et j'ai apprécié la manière provocante dont certaines de ces photographies bousculent un peu ce que l'on attend normalement et provoque l'attention. Je crois que le problème de l'art aujourd'hui, qui peut dérouter d'ailleurs les consommateurs, si je peux m'exprimer ainsi, d'art, c'est qu'il pose des questions. Il pose des questions alors que le public en général attend des réponses de l'art. Et ces réponses aujourd'hui sont des réponses problématiques et des réponses donc à plusieurs dimensions. Et c'est vrai qu'on peut se demander si la question de l'autre, qui est une question centrale, est résolue ou compliquée par tous les instruments de reproduction que nous avons aujourd'hui.
Alors, cette problématique de l'altérité, elle est forcément double ou duelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'altérité sans penser l'identité. On est toujours dans un rapport entre soi et l'autre, l'autre et soi. Ce qui est difficile à définir, c'est à la fois ce qui est l'autre et où est l'autre. Il y a les autres ailleurs et les autres ici, les autres d'aujourd'hui et les autres d'antan. Je travaille beaucoup actuellement sur des textes de Victor Segalen, qui a écrit un essai sur l'exotisme où il essayait de définir l'exotisme en le nommant le divers et en se lamentant d'une décroissance du divers par quelque chose qui devenait déjà une standardisation. Il parlait déjà de standardisation des voyages, de l'amélioration des techniques de voyage qui amenait déjà de premières formes de tourisme et qui avait déjà amené évidemment le colonialisme. Il a écrit sur la perte du savoir et de la culture maori, son texte « Les immémoriaux » que vous connaissez certainement, par la christianisation. Et évidemment, cette altérité qui a été niée, qui est encore dans notre héritage et parfois présente dans notre quotidien, je voudrais savoir, vous, comment vous l'abordez, puisque
c'est Galen, c'était environ, il y a environ 100 ans qu'il a écrit son texte sur le divers. Aujourd'hui, la globalisation est accomplie, comme dirait Bernard Stiegler. Elle a lieu à la fois via les échanges mondiaux, via l'économie mondiale, mais elle est surtout passée par le développement des technologies et par ce que vous appelez l'ubiquité et l'instantanéité, qui avaient été déjà des questions qu'avait posées Marshall McLuhan dans les années 60. Donc comment repenser l'altérité aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dans cette société que vous appelez planétaire ? Alors, est-ce que c'est un idéal de société planétaire ? Et comment elle s'organiserait, cette société planétaire ?
Eh bien, je dirais d'une part que, en effet, la question de l'identité et de l'altérité sont liées, parce qu'il n'y a d'identité qu'à travers des relations d'altérité. Ça commence avec l'éducation, les parents, etc. Cela dit, il y a au moins deux types d'altérité, parce que lorsque nous disons que nous respectons les autres, les cultures différentes, nous les respectons, oui, mais dans une certaine mesure. Il est vrai que chaque culture a elle-même sa propre conception de l'altérité. Et je ne crois pas que toutes les cultures, de ce point de vue, soient sur le même plan. Il y a des ethnologues qui, par respect pour la différence culturelle, sont prêts à tout admettre. Or, je crois que si on se place d'un autre point de vue, on peut considérer qu'il y a des cultures qui... toutes les cultures sont respectables parce qu'elles ont toutes posé les mêmes questions. Mais c'est les réponses qui sont diverses, qui sont différentes. Et je ne crois pas que les différents traits culturels soient acceptables pour quelqu'un qui est passé par les Lumières et par l'héritage des Lumières. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les Lumières, c'est une culture comme une autre, avec sa date. Je pense qu'il y a trois dimensions dans l'individu, de l'humanité, de l'homme, de l'humain. La dimension individuelle, vous, moi, et avec l'expérience immédiate de l'altérité. Il y a la dimension culturelle, qui est la dimension culturelle et ce qui unit un groupe. Mais dans ce groupe, et on pense les différences. Et je crois que l'inégalité des rapports entre hommes et femmes, par exemple, est un trait partagé par toutes les cultures. Et je crois que de ce point de vue, il y a un progrès et qu'il y a un mouvement qu'il faut prendre en considération. Respecter les cultures, ça veut dire les prendre au sérieux, les étudier, ça ne veut pas dire y adhérer. Les respecter, c'est admettre qu'elles posent les bonnes questions et on n'est pas obligé d'adhérer aux réponses. Je pense que les cultures ne peuvent pas être l'objet d'une fétichisation. Alors aujourd'hui, la globalisation, évidemment, marque des mouvements contradictoires. La globalisation, c'est plus que la mondialisation, parce que il y a déjà eu des mondialisations politiques, mais qui correspondaient à des références partielles. Le globe n'était pas en cause. Aujourd'hui, le fait est que même un Indien du fin fond de l'Amazonie sait que le monde existe comme tel. Et la globalisation s'étend à la planète entière. mais elle s'étend du point de vue économique, même s'il y a des discussions sur le libre-échange ou pas, et du point de vue médiatique, avec les instruments puissants que nous avons pour échanger. Cela, c'est la globalisation. Et le problème est qu'elle se développe comme un idéal d'un monde sans frontières, dit-elle. Mais cependant, l'écart se creuse sans cesse entre les plus riches des riches, les plus pauvres des pauvres, et entre ceux qui ont un accès à la culture, à une culture générale, à l'éducation, et ceux qui n'y ont aucun, qui n'ont pas d'accès à cette culture générale. Autrement dit, les inégalités progressent en même temps que le monde semble s'unifier. Et c'est une contradiction que l'on voit d'ailleurs à l'œuvre dans l'actualité de façon récurrente. C'est la contradiction profonde. Alors, est-ce que pour autant il faut se replier sur ces cultures particulières, sur ces... C'est pas possible. C'est pas possible parce que le repli sur les cultures identitaires sont des cultures qui sont également inégalitaires. Et il y a une aspiration à l'autonomie individuelle qui est le marque d'un progrès dans la conscience humaine. Mais c'est difficile à cause des rapports de force et de pouvoir qui se développent parallèlement. Mais le repli culturel est une solution qui n'a pas de sens non plus. Voilà où nous en sommes à peu près. Et je crois que il faut avoir conscience du fait que la troisième dimension de l'homme, c'est la dimension générique. L'homme en général, tout l'homme, n'importe quel homme est le tout de l'humanité. C'est la formule de Sartre. Et je pense que c'est dans la mesure où nous avançons dans cette direction que nous pouvons imaginer un avenir souhaitable. Bien sûr, c'est une utopie parce que nous n'allons pas vers ce monde-là. Enfin, nous y allons, nous semblons y aller, mais nous n'y allons pas tout à fait. J'ai parlé de l'utopie de l'éducation, qui, par exemple, qui est une utopie parce que malgré les progrès que l'on fait partiellement, il y a une inégalité qui s'accroît dans la formation entre les gens. Et je pense que il faut, au contraire, maintenir l'utopie de l'éducation comme un idéal. Et comme un idéal qui commande les pratiques. Ça a des conséquences politiques immédiates. Parce que les inégalités dans la formation est évidemment pire que l'inégalité dans l'économique. Elles se tiennent d'ailleurs, mais nous voyons bien aujourd'hui, quand on parle de globalisation, qu'il y a des gens qui parcourent la planète qui sont comme dans leur jardin et qui appartiennent à différents milieux, mais qui sont à l'aise. Et il y a au contraire les gens qui sont même délocalisés, qui pensent aux réfugiés, n'est-ce pas, qui fuient, qui sont dans des camps, qui n'ont même pas de lieu à eux. Et c'est ça, c'est un monde inégal et dur. Je crois quand même qu'il faut définir des politiques. Et pour définir des politiques, se garder de sacrifier aux idéologies comme au siècle précédent. Parce que la science est le seul domaine dans lequel on puisse, à propos duquel on puisse parler de progrès. Le progrès de la connaissance sont incontestables, et ça c'est une donnée évidente. Nous savons que nous ne sommes pas grand-chose, que nous sommes parmi les milliards d'individus sur une planète qui elle-même appartient à un système solaire, le système dont il y a des milliards dans notre galaxie, alors qu'il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Autrement dit, c'est affolant. C'est en tout cas perturbant. Mais encore faut-il savoir où nous sommes, ce que nous sommes et ce que nous pouvons attendre. Et il me semble que l'homme ne se définit à la fois comme individu et comme homme, c'est-à-dire par sa dimension générique, que s'il qu'à travers son désir de connaissance, qui est partagé, mais qui ne se retrouve pas chez tout le monde, pratiquement satisfait.
Parler un petit peu de la question des lieux et des non-lieux, qui est un concept que vous avez forgé. Quand on parle de globalisation et en même temps quand on essaie de parler de l'altérité ou de ce qui peut rester de l'altérité et des différences culturelles dans cette globalisation, on est obligé d'essayer de situer ces cultures, de situer les individus, de se situer dans cette globalisation et même dans l'univers tel que vous venez de le décrire à travers les galaxies. Et Bernard Stiegler parle aujourd'hui de savoir ce que c'est que la localité.
Eh bien, les lieux, nous avons besoin de lieux dans la mesure où nous sommes des êtres symboliques et nous avons besoin du temps et de l'espace. Alors que les moyens médiatiques dont nous disposons nous permettent de court-circuiter le temps et l'espace, enfin de nous donner le sentiment que nous sommes dans l'ubiquité, dans l'instantanéité. Nous avons besoin de lieux, et c'est pourquoi d'ailleurs les migrants sont les héros des temps modernes, puisqu'ils arrivent à s'arracher, parfois contraints et forcés, au lieu qui était le leur, et pour essayer d'en trouver un autre. Je crois que ce qui déroute dans le personnage du migrant, chez ces gens installés, c'est justement le fait qu'ils aient pu quitter leur lieu. Et c'est presque un acte sacrilège dans la conception que l'on peut se faire des choses. Même les populations nomades sont attachées au lieu et ils le refont. Elles ont des itinéraires qui sont les mêmes. Et puis à chaque arrêt, on reconstruit le plan du village. Bon, je crois qu'il y aura toujours un besoin de se situer, de situer les relations d'altérité et secondairement d'identité. par rapport aux dimensions spatiales et temporelles. En ce sens, le lieu, nous en avons toujours besoin. Le non-lieu, j'ai parlé des non-lieux pour évoquer ces espaces qui sont caractéristiques de la globalisation, c'est-à-dire qui, les espaces de circulation, les espaces de consommation, et les espaces aussi, c'est plus compliqué, de communication. Mais j'ai toujours mis des nuances à cette chose, parce que c'est évident que il n'y a pas de lieu absolu, il n'y a pas de non-lieu absolu. C'est donc pas une notion empirique qui tienne absolument. Chacun sait que ça varie selon les personnes et selon les fonctions. Ça n'est pas la même chose de travailler tous les jours dans un aéroport ou bien d'y passer comme passager. Celui qui travaille tous les jours a des relations d'amitié, de camaraderie avec ses collègues. C'est son lieu. C'est son lieu de travail. Et donc, ça dépend de l'utilisation que l'on en fait de l'espace. D'un autre côté, il y a des espaces qui fonctionnent comme lieu à de certains moments et comme non-lieu à d'autres. Tout dépend. Ce sont des notions qui sont des notions limites et qui c'est la paire qui compte, lieu, non-lieu, pour décrire un espace donné. Lieu, non-lieu, il n'empêche qu'il y a une progression des espaces de circulation, de communication et de consommation qui est considérable dans le monde. En même temps d'ailleurs que le monde s'urbanise. Il y a un constat objectif qui pourrait faire penser que, en même temps que le monde se globalise, il perd ses notions de culture locale et de négociation. C'est vrai, ça n'est pas vrai, parce que on voit bien que au fur et à mesure que la globalisation s'accentue, on a des réactions identitaires fortes, soit du point de vue politique, des réactions au sens presque politique du terme, de refus d'accueillir les autres pour s'affirmer soi. Et puis, on a aussi des réactions d'affirmation locale. On n'a jamais autant célébré les hauts lieux de la France, par exemple. Il suffit de regarder le Tour de France. Chaque qui est très bien fait, d'ailleurs, les reportages sont très bien faits, mais ils s'arrêtent sur chaque monument. Et c'est une espèce d'hymne à la France locale. Il y a donc ces deux... C'est pas contradictoire. Mais il reste que les mouvements d'ensemble est à la globalisation. Alors, les médias permettent de faire des images, d'en recevoir et d'en faire aussi. Nous en produisons et nous avons tendance à transformer le monde en images, comme on le voit avec nos portables, qui deviennent des téléphones, etc., qui deviennent des appareils photographiques, qui peuvent enregistrer tout. Et on voit bien ce que font les touristes qui, dès qu'ils arrivent quelque part, photographient. Ou se photographient d'ailleurs, se photographient comme pour apporter la preuve qu'ils sont allés quelque part. Autrement dit, il y a une utilisation de ces appareils qui tend à fabriquer un monde en images. Au fond, on confond connaissance et reconnaissance. Ça se voit bien à la télévision, n'est-ce pas ? Nous avons le sentiment illusoire, bien sûr, de connaître les gens que nous y voyons tous les jours, soit des personnages politiques, soit les animateurs eux-mêmes, avec lesquels nous avons une familiarité parce que nous les reconnaissons. Autrement dit, le risque à terme, c'est de vivre dans un monde d'images et de perdre le sens de la relation et donc de devenir solitaire, insensiblement. Ça, c'est le risque qui est lié à la globalisation et à tous ces moyens. Cela dit, on ne peut pas condamner les médias et les technologies parce qu'elles sont puissantes, elles ont l'avenir pour elles. Et d'un autre côté, il est évident que tout dépend de l'usage que l'on en fait. Et c'est pourquoi je crois que l'éducation est essentielle. Les moyens dont nous disposons sont tels que nous pourrions envisager une politique de globalisation de l'éducation, de l'instruction, je veux dire. Simplement, ça demanderait un effort colossal, financier et intellectuel. Et cependant, c'est bien à cela qu'il faudra en venir. Parce que à ce moment-là, nous aurions une égalité et nous comprendrions que chaque individu est porteur du genre humain, indépendamment de son sexe, de son origine, etc. Cette idée-là, elle fait des progrès, on le voit bien, mais elle se heurte à des obstacles et à des conceptions différentes. Mais je crois que l'enjeu est là. Et c'est un enjeu énorme. De ce point de vue, je suis... Encore une fois, je vais me répéter... Plutôt optimiste parce que je ne vois pas ce qui pourrait naître du pessimisme. Il y a une mode actuelle décliniste, ce qui consiste à dire que ou nous sommes tous américains, ou bien nous sommes tous médiatisés. Je pense que ceux-là même qui affirment cela le font par coquetterie, parce qu'il est plus coquet, il est plus séduisant de conjuguer le déclinisme que l'optimisme qui paraît toujours naïf. Et je parle sans naïveté parce que je crois que je pourrais faire une description apocalyptique de l'avenir qui nous attend, mais ça n'est pas certain, et je pense même que c'est la dimension symbolique de l'homme, le fait qu'il ait besoin du temps et de l'espace comme référence, qui assure que, en fin de compte, l'humanité existera. La conscience du genre humain, comme disait la chanson, sera la plus forte. De toute façon, si on prend les choses dans une perspective historique, on voit bien qu'il y a un progrès. Il est de bon ton aujourd'hui de dénigrer l'idée de progrès. Et il y a un progrès en ce sens que, moi, si maintenant que je suis âgé, je sais bien que quand on me parle de l'Europe, eh bien, je sais qu'elle existe aujourd'hui. Et je sais ce qu'elle était dans les années 40. Et il est vrai qu'il y a eu des progrès. Et le monde entre en communication. Alors, est-ce qu'on va imaginer un monde sans différence, sans plat, etc. Je n'en suis pas sûr. Simplement, je crois que ce qu'il y a de pire, c'est l'aliénation à une culture particulière. Parce que les cultures en soi sont des pièges pour la liberté et l'autonomie de l'individu. Mais elles sont nécessaires pour construire la relation sociale. Simplement, je crois que avec la mondialisation, nous pouvons arriver à une perspective transculturelle. C'est-à-dire que nous pouvons envisager les cultures pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des tentatives souvent intelligentes pour réfléchir sur ce qu'était l'homme, ce qu'était son destin, etc. Je suis un admirateur de certaines cultures traditionnelles qui ont, par la force de l'intuition et de l'observation, construit des systèmes, des perspectives sur l'humain qui sont tout à fait intéressantes. Mais ça ne peut pas être le dernier mot de la pensée. Et ce qu'il faut voir, c'est que, d'une part, la démographie est devenue énorme. La population de la Chine, aujourd'hui, c'était la population du monde au début du XXe siècle. Et d'un autre côté, il y a cette perspective transculturelle qui est. Il y aura une perspective transculturelle, ce sera un effort d'éducation. Je crois qu'il faut enseigner les cultures, justement, y compris les cultures traditionnelles, mais les enseigner pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des visions partielles de l'humanité. Et lorsque nous serons dans un monde d'individus qui auront conscience d'être au-delà de l'ère culturelle, eh bien, nous aurons fait un grand pas en avant.
Est-ce que c'est ce que vous appelez la société planétaire et peut-être la fin de la préhistoire de l'humanité ?
Oui, peut-être, parce que, bien sûr, si nous nous définissons comme terriens, c'est-à-dire une société terrienne, nous y allons. Nous y allons doucement, nous allons au rythme historique. Mais on peut considérer que jusqu'alors, nous étions dans la préhistoire de l'humanité comme société planétaire. Quand nous parlons des Martiens, on imagine tout de suite les Martiens comme formant un seul groupe. Les terriens, c'est pas le cas. Mais une société de terriens, ça serait pas du tout une société qui serait indifférenciée. Mais ça serait une société où l'idée de laïcité s'imposerait aux cultures elles-mêmes. C'est-à-dire que nous serions laïcs par rapport à l'existence culturelle. Et nous développerions le transculturalisme, c'est-à-dire la connaissance des différents systèmes conçus comme tels, comme des systèmes. On ne s'aliénerait à aucune culture et on les connaîtrait toutes.
L'anthropologue et le photographe, un dialogue avec Marc Auger, exposition proposée par Marc Latuillière à la Friche de la Belle de Mai jusqu'au 13 août. L'exposition est ouverte du mercredi au vendredi de 14h à 19h, les samedis et dimanches de 13h à 19h. Un commissariat François Saint-Pierre, une coordination Éric Gudimard. C'est une proposition des ateliers de l'image du Centre photographique de Marseille suite à un accueil en résidence en 2016. Une coproduction Les ateliers de l'image, Le Creux de l'Enfer, L'Imagerie et La Friche de la Belle de Mai pour le printemps de l'art contemporain.